Et nous accueillons l'actrice Josiane Balasco, bonjour.
Bonjour.
Vous incarnez en ce moment à l'écran Irène, la mère d'Emmanuel, victime d'un prêtre pédophile dans Grâce à Dieu de François Ozon. Et vous publiez un recueil de nouvelles intitulé « Jamais plus » chez Pygmalion. On va évoquer aussi bien entendu ce recueil de nouvelles. Tout d'abord, une réaction peut-être non pas forcément au biais politique de Frédéric Seitz, sauf si la question européenne...
Oui, c'est un peu compliqué, je ne connais pas, je ne suis pas une spécialiste. Vous savez, maintenant, le grand mot, c'est décrypter.
Vous
regardez les chaînes en continu, il y a du décryptage à fond la caisse. Non, mais ce que j'ai l'impression, c'est que finalement, le duel un parti, disons, comme le RM ou le Parti Socialiste et le Front National ou un parti d'extrême droite, c'est le rêve de tout dirigeant potentiel parce qu'il se dit, on va voter pour moi. On va voter pour moi, on va pas voter pour les extrêmes. Eh ben, faut faire gaffe, c'est tout.
Faut faire gaffe à quoi?
Voilà. Ben, faut faire gaffe que justement ce soit pas ça l'histoire.
Vous vous êtes exprimé sur les gilets jaunes, Josiane Balasco. Vous avez dit que vous compreniez leur lutte.
Oui, c'est vrai. Non, mais je pense que si moi j'étais dans la situation maintenant de tous ces hommes et ces femmes qui sont soit dans le chômage, soit dans un désert civique, dans des endroits très reculés, obligés de prendre leur voiture, gagnant un minimum, je serais sur un rond-point, bien sûr.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la manière dont se déroule la protestation, la façon dont le gouvernement y répond ou n'y répond pas, le grand débat, par exemple? Ça vous inspire?
J'ai l'impression que dès qu'on ouvre la télé, on voit notre président. C'est-à-dire qu'il est partout. Il est omnipotent, omniprésent. Mais faut faire gaffe parce que trop de visibilité, parfois, tue la visibilité, hein.
Parmi les icônes des gilets jaunes, il y a Coluche. Coluche, dont on parle beaucoup dans la presse ce matin, parce que cela fait 30 ans que les Restos du Cœur ont été créés. Vous avez bien connu Coluche. Quels souvenirs en conservez-vous? Et qu'est-ce que ça vous fait de le retrouver comme icône parmi les gilets jaunes?
C'est-à-dire que Michel de comique corrosif, parce que c'était ce qu'il disait, ça attaquait à tout va. Il disait, moi je suis là pour faire remonter la merde vers ceux d'en haut qui ne sentent rien, vous voyez. Et donc effectivement il y a les enfoirés et qu'ils soient disons entre guillemets récupérés par les gilets jaunes, c'est un petit peu logique, mais je préférais qu'ils soient récupérés par rapport à ce qu'ils disaient sur la politique que par rapport à un mouvement de charité qui est très important, que sont les enfoirés et le Resto du Cœur.
Le fait qu'aujourd'hui sa candidature à la présidentielle, qui n'est pas allée jusqu'au bout, résonne de manière différente. À cette époque-là, vous le voyiez?
On n'avait pas trop le temps parce qu'il était en campagne. Oui, je me souviens de la
campagne. Vous auriez voté pour lui?
Je sais pas. J'en sais rien, peut-être. Quand il était en campagne, quand même, je me souviens de la photo à poil avec une plume dans les fesses, et qu'il avait fait, où il avait, après, soi-disant, fait une grève de la faim qui était totalement fausse, puisqu'il prenait il montrait qu'il avait maigri en prenant des salopettes de plus en plus grandes. Non. Mais Michel, c'était le maître, comme ça, de l'événement. Il savait très, très bien se mettre en scène.
Toujours dans l'actualité, Josiane Balasco, je l'ai dit, vous êtes en ce moment à l'écran, vous êtes Irène, la mère d'Emmanuel, victime d'un prêtre pédophile dans Grâce à Dieu de François Ozon. On va d'ailleurs en écouter un extrait de ce film.
Et Prénat, c'était quand?
De 88 à 91. Ça fait 25 ans. Et j'attends depuis toujours ce moment que quelqu'un parle, que je puisse enfin tout raconter moi aussi.
Et tu te fais accompagner?
Comment ça?
Je sais pas, tu vois un psy, ça peut aider.
Ah non, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait thérapie, hypnose, atelier de danse soufi.
Ah bon?
Non, le seul truc, en fait, qui m'aide, c'est le sport.
Je comprends. Oui.
Ça me vide la tête. En tout cas, moi, je suis tout cœur avec vous. Je vais vous aider dans l'association pour que Prénat aille en prison, parce qu'il faut qu'il paye pour toutes les saloperies qu'il a faites. Et d'ailleurs, j'ai bossé pour Euronews, là, la chaîne d'info, il y a quelques années. J'ai gardé des contacts, donc je me disais, peut-être je peux les appeler, les mecs, tu vois, leur demander qu'ils fassent un sujet.
Mais pourquoi pas, ouais, c'est une bonne idée. Mais le plus important, c'est que tu ailles voir le capitaine Courtois pour faire ta déposition et me charger de l'enquête. Et après, si tu pouvais écrire ton témoignage pour qu'on publie sur le site.
Pas de problème, je fais ça.
Super.
C'est bien, hein, de savoir qu'on n'est pas seul. Ça...
C'est important.
Josiane Balasco, vous qui jouez dans Grâce à Dieu, donc le film de François Ozon dont on vient d'entendre un extrait, vous êtes la mère d'un enfant victime d'un prêtre pédophile. Comment recevez-vous la nouvelle de la démission, de la condamnation du cardinal Barbarin?
Je trouve ça logique. Je trouve ça logique que si on a couvert un délit ou un acte aussi grave que cela, on soit puni. Bon, c'est une première, c'est ça aussi qui est important.
Qu'est-ce qui vous a poussé à jouer ce rôle? Comment l'avez-vous appréhendé?
Mais François Ozon m'a proposé ce rôle et moi, j'avais jamais travaillé avec lui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup comme cinéaste. Uh-huh. Et d'un seul coup, c'est vraiment un petit personnage. Et ce petit personnage prend un peu d'importance.
Oui.
Parce que c'est la mère du plus jeune des garçons abusés. Donc celui qui peut permettre une poursuite pénale parce que ces faits ne sont pas prescrits. Et c'est aussi la mère et le fils sont des prolétaires, alors qu'ils ont affaire à des gens qui sont quand même de la bourgeoisie. Les autres victimes sont quand même des gens issus de la bourgeoisie ou de la grande bourgeoisie. Et ces deux personnages qui sont un peu à part sont assez touchants.
Et justement, vous qui avez grandi dans un milieu plutôt modeste, votre père tenait un bistrot à l'époque. Est-ce que la religion à l'époque jouait un rôle important? Est-ce que ça a compté?
Non, je sais qu'on m'a obligé à aller, parce que c'était la tradition, aller au caté, faire sa première communion.
Et après, vous avez fait votre première
communion? Oui, et après, basta. Non, basta, une fois que c'était terminé. Parce que quand même, ça avait tous les jours qu'on avait de livres à l'école, on les passait à apprendre par cœur des trucs. Mais bon, nous, j'ai jamais été du tout confronté au genre de problèmes, aux abus auxquels sont confrontés les héros de Grâce à Dieu.
Il n'y a pas de religion dans Jamais Plus, c'est le recueil de nouvelles que vous publiez chez Pygmalion. Il y a en revanche une nouvelle, puisque donc ce livre est composé de 8 nouvelles, qui s'intitule « Le musée de l'homme ». Je vais en lire un extrait, Josiane Balasco. « Et si on parlait d'amour ?» dit Rose, qui avait de la suite dans les idées. Violette partit au quart de tour sous le regard amusé de Marguerite. « C'est du domaine de la science-fiction et des névroses sociétales. Tu as quelque chose à dire là-dessus ? Ben oui, ça me manque, pas vous ?» Il y eut un léger silence, vite rompu par Lila. « Va sur Mythique, t'as essayé le speed dating non plus ?» Tu peux même le trouver sur ton smartphone à 2 pas de chez toi. C'est donc un monde, celui que vous décrivez dans cette nouvelle, qui manque un peu d'hommes quand même.
Oui, qui manque d'amour aussi. Oui, non mais c'est parti, moi, toutes ces nouvelles sont parties d'une idée, soit en voyant quelque chose à la télé, soit en me souvenant d'un événement. Et là c'était je me souviens de discussions avec une amie aujourd'hui disparue, et qui parlait de sexe. Et donc d'une manière très drôle. Et au début, je me suis dit, je vais simplement raconter l'histoire de 4 filles qui se rencontrent et qui parlent de cul, puisque c'est souvent l'apanage des hommes de discuter, mais en fin de compte, les filles aussi. Et au fur et à mesure où...
Elles en parlent de manière très crue. Alors, j'ai pas lu cet extrait parce qu'on est tôt le matin. Oui, après, oui. J'allais avoir des remarques, vous voyez.
Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que finalement, ce qu'on est en train de regarder n'est pas la réalité du moment, mais c'est vu à travers le prisme d'une bande en 3D, d'un enregistrement dans un monde où l'homme a disparu.
Et le fait que l'homme disparaisse, qu'est-ce que ça provoque chez ces femmes-là, donc dans cette nouvelle que vous publiez dans Jamais Plus, Josiane Balasco?
Il y a un musée de l'homme où on peut avoir des traces, effectivement, c'est le musée de l'homme. Mais là, il y a toutes les traces qui nous restent de l'élément masculin de la société. Et j'avais écrit cette nouvelle en hommage à John Wyndham, qui est un auteur anglo-saxon américain des années 50, qui avait écrit une nouvelle formidable qui s'appelle Reine des fourmis, où l'héroïne se retrouvait propulsée dans un univers où l'homme avait disparu effectivement et où la société était régie comme dans une fourmi, comme dans une ruche, voilà.
Et ces femmes-là, donc elles n'ont plus que des femmes.
Oui,
c'est
mais
un
ça
choix
se passe plutôt
obligatoire.
Bien.
Ça se passe bien, mais c'est la deuxième fois en fait que vous traitez une histoire.
Oui, là elles sont obligées parce qu'il n'y a pas le choix. Mais
alors
je pense
voilà,
que
on ne sait pas si elles sont lesbiennes ou bi ou que sais-je.
À partir
encore.
Du moment où il n'y a plus d'hommes, ces termes-là n'existent plus finalement.
Oui. est-ce qu'il n'y a pas quand même un message derrière, puisqu'on est 8 mars alors bon, je ne vous obligerai pas à parler de cette actualité du 8 mars, mais est-ce que vous voyez derrière, je ne sais pas, un symbole? Est-ce que les hommes disparaîtraient à cause de l'émancipation des femmes? Est-ce que musée de l'homme, cette nouvelle que vous avez
oui,
écrite,
Josiane Balasco? Oui, là ils disparaissent pour, je crois, à cause d'une maladie ou quelque chose comme ça. Moi, je n'ai pas envie que les hommes disparaissent parce que je trouve ça bien quand même.
Je sais pas, ça pourrait régler certains problèmes.
Alors, hommes, effectivement, il y aurait beaucoup moins de testostérone dans l'univers. Peut-être que ça réglerait des problèmes. Mais après, il faudrait régler le problème de la survie sans les hommes. Voilà, des problèmes mécaniques, les
ça,
problèmes
culturels. Je sais pas, il y a peut-être des solutions scientifiques. Quoi.
Voilà, parthénogenèse, clonage. Voilà ce que je dis dans ma nouvelle.
Bon, ça réglerait aussi la question du harcèlement sexuel.
Ah, je sais, alors, est-ce que là, j'ai pas traité de ça, mais est-ce qu'il y aurait harcèlement sexuel entre femmes? J'en sais rien. À partir du moment où on refonde totalement la société, je ne sais pas.
Est-ce que ça permettrait aussi peut-être au monde du cinéma d'être plus apaisé, puisqu'on a beaucoup dit que la question donc du harcèlement sexuel, elle se posait particulièrement dans l'un de vos métiers. Je dis l'un de vos métiers puisque vous écrivez également Josiane Balasco.
Moi, j'ai pas vraiment eu affaire à ça, mais j'ai vu effectivement que c'est presque une légende de dire qu'il y a des producteurs qui reçoivent des jeunes filles dans leur bureau et parfois sous leur bureau aussi. Voilà. Donc, mais ça existait, ça c'est sûr. Alors effectivement. Mouvement MeToo qui est né de contre les Weinstein que j'ai rencontré. Moi, c'est lui qui avait distribué Gazon Maudit aux États-Unis, qui était un tyran, qui tyrannisait tout le monde dans son bureau, tous les gens tremblaient. Alors, je pense qu'effectivement, ça a dû faire du bien à pas mal de gens de balancer sur Weinstein.
Gazon Maudit, d'ailleurs, j'y reviens, puisque donc c'est la deuxième fois que vous traitez d'une histoire de lesbienne. C'était en
1994-95,
je crois, oui. Et à cette époque-là, les films sur les lesbiennes étaient plutôt rares.
Mais il n'y en avait pas vraiment, ou alors c'était des films militants. Ou alors, si on voyait du lesbianisme, enfin, c'était des films de cul, des films porno, où on faisait des scènes comme ça, ou genre triolisme. Moi, j'ai eu envie de... Parce que je suis obligée toujours d'avoir des références d'hommes, puisque je n'avais pas de références de femmes, en me disant, bon, pour les hommes, il y a eu des films sur l'homosexualité, assez, il y en a eu, des comédies, il y en a eu des... Et je me dis, il n'y en a pas pour les femmes. Donc, ça m'a donné l'idée d'écrire une histoire qui serait une comédie, et où l'un des personnages principaux serait une lesbienne plutôt sympathique, et non pas dramatique, parce que souvent, je me souviens dans Quai des Orfèvres, le personnage joué par Simone Renan est une lesbienne, et Jouvet lui dit, vous êtes un type dans mon genre, vous avez jamais eu de chance avec les femmes. Mais c'est toujours des personnages très sombres, finalement, très dramatiques.
Et alors, justement, les personnages de femmes chez Josiane Balasco dans votre univers, dans le film Cliente, alors là, c'est 2008, et c'est un film qui était adapté de votre premier roman. Un des personnages est une femme de plus de 50 ans et elle doit avoir recours au service de gigolo pour assouvir son désir.
Pour exister. Et pour exister de manière indépendante, je crois qu'elle n'a pas envie d'avoir de lien. Elle a de l'argent, elle n'a pas envie d'aller sur Mythique, dans le speed dating et tomber sur parfois des abrutis. Là, elle paye un jeune homme charmant qui va lui tenir compagnie pour le sexe, mais pas forcément. Ou plus. Et voilà. Donc, et ensuite, dans l'histoire, effectivement, elle va tomber amoureuse de lui.
Mais parce que d'habitude, en fait, elle voulait les payer pour qu'ils disparaissent, quoi, après.
Oui, c'est juste pour avoir un bon moment. Comme on va au spa ou comme on va à la gym, et ben on passe un petit moment avec genre de sextoy qu'on paye, quoi.
Et la question, justement, des femmes de plus de 50 ans. Alors, des femmes de plus de 50 ans dans le cinéma, Josiane Balasco.
Mais je trouve qu'en France, les femmes de plus de 50 ans ont une place. Enfin, du moins, beaucoup d'actrices connues ont plus de 50 ans. Je parlerai même pas de Catherine Deneuve. Mais je peux parler de Isabelle Huppert, je peux parler de Fanny Ardant. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui atteignent la cinquantaine ou qui ont même plus de 50 ans, qui tournent et qui continuent à tourner des rôles intéressants, parfois des rôles séduisants, de femmes séductrices. Donc ça, en France, on est plutôt de ce côté-là, plutôt gâtés par rapport aux États-Unis, par exemple.
Parce qu'on se souvient aussi du témoignage déchirant d'Annie Girardot. Au César.
C'était il y a, je pense que Annie Girardot, c'était il y a 20 ans.
Et vous pensez justement
ça a évolué. Oui, ça a évolué. Je pense que ça a évolué, qu'on utilise les actrices, qu'on trouve des rôles plus longtemps.
Bon, en tout cas, pour ce qui concerne votre popularité, elle n'a jamais été démentie. J'ai lu d'ailleurs que vous étiez l'actrice la plus populaire chez les Français.
Il paraît, moi je lis pas ces trucs-là. Alors
bah moi je l'ai lu pour préparer.
Oui, mais faut se méfier de ce qu'il y a dans les journaux. C'est ce que disait Coluche, la seule chose véridique dans les journaux, c'est la date.
Bon, bah écoutez, alors ça fait peut-être partie des choses qui n'ont pas changé depuis. Mais en tout cas, le fait que vous ayez accompagné toutes les générations, je me demande d'ailleurs si l'un des premiers films que j'ai vu
Les Bronzés, je pense.
Je pense qu'il y avait Le Père Noël est une ordure, Noël, qui est aussi probablement l'un des films que les Français ont le plus vu
et revu grâce à aux rediffusions télé.
Qu'est-ce que ça vous fait?
Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien de faire partie de l'album de famille des Français, parce que c'est ça. On fait le Père Noël, les Bronzés repassent régulièrement. Donc, j'ai tombé sur une diffusion des Bronzés sur, je crois que c'est sur une chaîne, et je l'ai regardé, parce que je l'avais pas vu depuis longtemps. Et je regarde ça comme on voit les films de vacances qu'on s'est fait il y a 30 ans ou 40 ans. Ça fait 40 ans maintenant, avec plaisir et émotion.
Comment ça se fait que ce film, ces films, parce qu'en fait c'est clair que les bronzés sont repassés il y a pas longtemps, sont des films qui n'ont absolument pas vieilli, alors que d'autres films ont plus de difficultés à être revus.
Mais les Bronzés, déjà c'est des films, quand je dis en costume, par exemple les bronzés le premier, c'est des films en djellaba, donc ça se démode pas la djellaba puisque les gens sont en maillot de bain.
Là c'était les Bronzés, ils font du ski.
Et les font du ski, c'est quand même. C'est en costume, la tenue de ski qui a effectivement un peu évolué, mais c'est non plus ça n'a pas changé radicalement. Donc déjà, on peut s'y retrouver, on peut se reprojeter dans les personnages. Et je crois, puisque les gags doivent continuer à exister, des gens qui font des conneries au ski, donc c'était un répertoire des conneries qu'on peut faire au ski, entre autres. Et ça, les gens s'y reconnaissent encore.
Et lorsque vous les avez tournés, ces films, Josiane Balasko, est-ce que vous vous êtes dit que 40 ans après, les télés feront encore leur fonction?
Je me suis dit, mais bon sang, dans 40 ans, vous allez voir. Non, on ne savait pas du tout. On était contents de tourner. Le Bronzé fondu ski avait un peu moins bien marché que le premier Bronzé qui avait marché, parce qu'on nous découvrait, tout ça, c'était la bande de jeunes, les Bronzés. Mais bon, on était contents de travailler, c'est ça.
Vous n'avez pas tourné que dans Les Bronzés font du ski ou Le Père Noël est une ordure. Vous avez par exemple incarné le rôle de Marguerite Duras dans J'ai vu tuer Ben Barka, interprété la femme rompue de Simone de Beauvoir au théâtre. Quel est justement votre rapport à ces deux écrivaines féministes?
Bah écoutez, je crois que moi je connaissais pas bien. J'ai vu des pièces, bon, parce que Depardieu a joué des pièces avec Marguerite Duras. J'ai lu un bouquin de cuisine de Marguerite Duras.
Un bouquin de cuisine.
Oui, elle en a dit. Ça a été édité un seul livre de cuisine que j'avais acheté immédiatement pour offrir
Qu'est-ce
à Fanny Ardant.
Qu'est-ce qu'elle faisait comme recette?
Je sais plus. Je l'ai offert immédiatement à Fanny Ardant.
Parce que vous faites pas la cuisine.
Si, mais pas la cuisine de Duras. et après, ce livre a été interdit par un héritier, ou je sais pas, il y a eu une histoire, donc il est introuvable. Et Simone de Beauvoir, j'avais entendu parler, hein. J'ai que mon brevet pour vous dire, donc j'ai des excuses. J'en avais entendu parler, et puis Hélène Tullière est venue me proposer La Femme Rompue. J'ai lu ce texte incroyable et j'ai dit bien évidemment. Et après j'ai commencé à lire Simone. Mm-hmm. Et maintenant j'aime Simone. Je crois qu'on peut qu'aimer cette femme.
Et votre rapport au combat féministe, à la manière dont elle le décrit et dont il se déroule, Josiane Balasko?
Elle était très politique. C'était quelqu'un qui était vraiment quelqu'un qui était sur le front politique, sur les manifs avec Sartre et tout ça.
Mais vous aussi, vous êtes politique.
Oui, tout est politique, comme disait
l'autre. Non, mais vous avez pris...
Vous avez pris position.
Oui. Ouais. Mais vous l'avez fait tout à l'heure
combat,
pour les Gilets jaunes.
Il est vaste. Alors j'espère, comme disait Madame Pénicaud tout à l'heure, qu'effectivement, il y aura une égalité des salaires. Et parce que c'est bien beau de le dire, après faut la faire appliquer, et ensuite si c'est pas appliqué, faut le pénaliser. Tout ça, ça prend du temps. Parce que c'est ça qui me paraît important, c'est qu'à travail égal, y ait le même salaire, ce qui n'est pas du tout le cas pour nombre de femmes. Bon, j'entendais parler de l'écriture inclusive et de la manière. C'est très bien d'obliger, mais enfin, ce serait mieux que les femmes soient payées à égalité des hommes, parce qu'elles sentiraient la différence tout de suite, plutôt que dire auteur, autrice. Qu'est-ce que je vais dire?
C'est quand même un combat dans lequel vous êtes engagée, Josiane Balasko, parce que, par exemple, vous avez signé un appel à la laïcité et au respect du droit des femmes avant que ce combat ne devienne, je dirais, un élément presque quotidien de l'actualité.
Oui, mais moi je signe. Vous savez, on me demande de signer des pétitions, je signe. Pas tout. parce que j'ai bien des pétitions. Mais
donc
je peux signer.
Mais
par contre, je peux signer une pétition contre la chasse à cour, comme je peux signer une pétition pour le droit des femmes. Point. Parce que pour moi, ça fait partie de la même chose.
Pétition contre la chasse à cour. Alors effectivement, dans Jamais Plus, ce recueil de nouvelles que vous publiez, il est beaucoup question d'animaux. Jamais Plus, c'est d'ailleurs un corbeau.
Oui, le corbeau d'Edgar Poe, qui est un poème d'Edgar Poe. Oui. Donc c'est un corbeau que l'héroïne va rencontrer, et l'héroïne a le don de comprendre, de communiquer avec les animaux. Il va communiquer avec ce corbeau.
Et vous avez apparemment un lien particulier aux animaux. En tout cas, vous aimez bien écrire sur eux.
J'aime les animaux. J'écris sur un chien aussi. Mais je les connais bien. Enfin, je connais bien. Moi, j'ai toujours vécu avec des chiens, des chats, parfois des cochons. Enfin, des animaux, ce ne sont pas des objets. Voilà.
Et si vous comparez les animaux aux êtres humains, quelles sont les caractéristiques?
Cool, hein. Les animaux sont vraiment... Les animaux ne sont pas rancuniers, les animaux n'ont pas de haine. Ils peuvent être agressifs si on les emmerde.
C'est jamais rancunier, un animal?
Peut-être la mule du pape.
On va écouter un extrait du Corbeau d'Edgar Allan Poe, et qui inspire en quelque sorte la première nouvelle de votre recueil, Josiane Balasko.
Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais faible et fatigué sur ma précieuse et curieux volume d'une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la tête presque assoupie, soudain, il se fit un tapotement comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. C'est quelque visiteur, murmurai-je, qui frappe à la porte de ma chambre. Ce n'est que cela, et rien de plus. Ah, distinctement, je me souviens que c'était dans le glacial décembre, et chaque tison brodait à son tour le plancher du reflet de son agonie. Ardemment, je désirais le matin. En vain m'étais-je efforcé de tirer de mes livres un sursis à ma tristesse.
Le Corbeau d'Edgar Allan Poe. Parmi les goûts littéraires de Josiane Balasko, il y a Poe, donc j'imagine, il y a Pérec aussi, et
ah
vous
oui.
appréciez beaucoup Pérec.
Mais oui, alors moi j'étais fascinée par La vie mode d'emploi, par exemple, qui n'est qu'une description. Alors moi je sais que je suis vraiment admirative de la description, parce que c'est un exercice très dur, et Pérec arrive par la description à décrire ce qui se passe à l'intérieur des gens. Et ça, c'est génial. Cette manière que ce type a fait de jouer avec les mots. Comme la disparition, quand même, penser à écrire sans utiliser la lettre E. C'est un jeu de l'esprit extraordinaire. Donc, j'aime Pérec pour ce côté joueur avec la langue.
Et dans votre univers à vous, alors apparemment, donc il est question d'animaux, il est question également d'un univers qui est très proche du fantastique, de la science-fiction. C'est un genre que vous affectionnez, Josiane Balasko.
Oh oui, je crois que c'était mes premières amours littéraires quand j'avais 20 ans. Ça a été la découverte grâce à un ami qui s'appelait Daniel Rich, qui était directeur de rédaction à Fiction Galaxy, édition Opta, les fameuses, années 70. J'ai découvert la science-fiction, et il nous filait à toute notre bande de copains, on avait 20 ans, hein. Tous les fascicules qui sortaient tous les mois, où il y avait 5-6 nouvelles de SF, souvent anglo-saxonnes, et où on a découvert Dick, Harlan Ellison, Sturgeon, enfin tous ces maîtres de la science-fiction.
Et Dick, c'est quelqu'un qui a compté, par exemple, pour vous?
C'était la première fois qu'on lisait un auteur aussi barré, parce que c'est extrêmement barré sur la réalité. Parce qu'il écrit toujours sur la réalité, parce que la réalité qu'on voit n'est pas la réalité qu'on voit. Donc on rentre dans sa réalité qui n'est pas forcément une réalité très cool chez Dick.
Et puis, puisque vous parlez d'histoire barrée, il y a l'une de ces nouvelles qui s'intitule « Un scénario d'enfer » où on propose à une femme cinéaste qui n'est pas véritablement dans une période gagnante, hein, elle est un peu dans un trou d'air dans sa carrière, on lui propose de tourner un film, mais malheureusement, ce film n'est pas complètement un cadeau, je ne vais pas divulgâcher cette
série,
nouvelle.
C'est une série vraiment presque Z. C'est un producteur qui l'appelle. Elle fait des films d'auteur, et d'un seul coup, un producteur connu, célèbre, qui est un grand producteur, l'appelle pour produire un film qui mettrait en scène sa femme. Apparemment, il est sous la coupe de sa femme.
Et cette femme étant particulière.
Voilà, une femme un peu particulière, un peu hystérique. Et il lui propose de tourner carrément une série B. Mais quand je dis une série B, c'est pratiquement une série Z. Et là, elle va accepter parce qu'elle a besoin d'argent, et ça va mal se passer pour elle.
Oui, c'est même d'ailleurs une erreur de
une
carrière.
Erreur de casting.
Une erreur de casting et une erreur de carrière avec des rebondissements. Mais alors là, pour le coup, ça n'a absolument rien d'autobiographique. Vous n'avez jamais été confronté à ce type de tournage.
Mais c'est vrai qu'on parle toujours des actrices qui épousent des producteurs comme des filles extrêmement vénardes. Or là, dans cette nouvelle, on voit que c'est pas vraiment le cas.
Non, effectivement, on voit que c'est une forme de rebondissement. Et cela fait partie des surprises qu'on découvre dans ce recueil de nouvelles avec un imaginaire qu'on ne vous connaissait pas. Josiane Balasko fait donc de zombies à vendre, d'extraterrestres et d'animaux avec un corbeau en couverture jamais plus aux éditions Pygmalion.